Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 43e épisode de Torréfaction. Salut Kef.
Ça va, Pasquine?
Ouais, ça va, la pêche là.
Bah écoute, on fait ça à des heures normales en ce moment, on est presque pas habitués.
C'est vrai. Comme chaque semaine, donc rendez-vous avec notre petite sélection de l'actu, les choses qu'on estime importantes et qui du coup pourraient sans doute vous intéresser aussi. On va commencer avec le gaming. Tu nous as fait un gros papier cette semaine sur le sujet, mais on va y revenir. C'est la sortie donc de deux Battle Royale sur mobile, de titres importants, on va dire, PUBG et Fortnite.
C'est la guerre! La guerre des dollars. oui, alors bon, les Battle Royale, on va pas vous expliquer ce que c'est. Hein. On balance 100 mecs sur une île et puis en fait, à la fin, il n'en reste qu'un et c'est pas Highlander. Je comprendrai jamais pourquoi les mecs ont pas utilisé ça avec la licence du film il y a 1000 ans, mais parce que ça fonctionne aussi.
On aurait
des grosses épées. Bon, par contre, en termes de gameplay, c'est un peu la merde. Bref. Donc, PUBG mobile. On avait parlé des adaptations chinoises de PUBG sur mobile, sur Geekzone. Et il y en a deux. Donc ça, on l'oublie un petit peu de temps en temps. Et du coup, il y en a qu'une qui sort en Occident, qui s'appelle bêtement PUBG Mobile, mais parce que le titre anglais, la traduction anglaise du titre chinois est beaucoup plus drôle. C'est Exhilarating Battlefield, avec mon accent extraordinaire. Toi aussi, vis des émotions fortes dans la pampa.
Donc, mais quoi, c'est un choix stratégique, du coup, d'en sortir qu'une seule version chez nous?
Bah, déjà, il y a quand même un truc qu'il faut expliquer et rappeler aux auditeurs.
Oui.
C'est que je ne comprends pas la logique du développement de jeux vidéo en Chine, parfois. Hein, j'ai du mal. Parce que déjà, en faire deux, Tencent a financé deux adaptations. Une un peu plus arcade et une un peu plus fidèle au jeu d'origine. Soit. Mais les concurrents ont aussi fait deux, voire trois versions. Pas vraiment des adaptations, mais des copies de PUBG. Pourquoi en faire trois d'un coup? Pourquoi se cannibaliser? Alors, est-ce que c'est pour occuper plus de terrain? Je ne sais pas. Mais du coup, ils ont un peu rationalisé le truc pour l'Occident en se disant, on va peut-être pas perdre les gens, hein, qui ont déjà du mal entre choisir entre le concurrent et PUBG. Le concurrent, je en parle dans deux secondes. Donc, du coup, là, on n'aura que PUBG Mobile, qui est une adaptation extrêmement intéressante d'un point de vue technique, en tout cas, parce que très honnêtement, ça tourne plutôt bien malgré les concessions qui ont été faites pour que ça puisse fonctionner sur nos petits téléphones. Même quand on achète des appareils à 1000 balles, ça n'a pas les cartes graphiques que nous avons dans nos PC, je crois qu'il est important de le rappeler. En revanche, le résultat est plutôt intéressant. Alors ok, d'accord, ils ont un peu modifié l'architecture des bâtiments, mais vous reconnaîtrez toutes les villes dans lesquelles vous vous êtes fait massacrer déjà, il y a pas de souci.
Je suis mort là aussi.
Je crois que depuis un an, je suis mort partout. Moi. Je pense qu'on peut le dire.
Il n'y a pas un achievement pour ça, 100% mort partout sur la map.
Ils viennent de rajouter les achievements. Je suis un peu salé parce que je te confirme que sinon, celui-là, je l'avais. Il n'y a pas de problème. Et vous êtes mort dans toutes les maisons de Pochinki.
Bravo!
Bravo! Et ça y est, ouais, je crois que c'est fait, ça aussi.
Et du coup, tu te balades avec un chapeau d'âne pendant toute la partie.
Ah, mais je le connais, lui, je l'ai déjà buté.
Bref, revenons à nos versions mobiles.
Désolé, on est un peu divagué. Donc la version mobile, l'avantage c'est quand tu joues sur un iPhone récent par exemple, c'est très très beau. Sur un iPad, je préfère même y jouer parce que les adaptations mobiles sur écran, c'est quand même petit. Du coup, quand tu essayes de sniper un mec dans la pampa justement, tu vois que quelques pixels qui bougent sur un écran de téléphone. Je trouve pas ça super agréable. Chacun, on va dire, ses limitations ou chacun ses concessions. Si vous y jouez sur iPad, un iPad moderne, ça fonctionne vraiment mieux et on voit quand même ce qui se passe, donc tout va bien. En revanche, si on y joue sur une machine un peu ancienne, évidemment, c'est super dégradé. Les textures vont virer. Le jeu, en fait, automatiquement va vous proposer des settings adaptés, mais il y a quand même un écran dédié dans lequel on peut essayer de forcer deux, trois trucs ou de les baisser si on estime que on n'en a pas besoin. Ça va jouer sur le framerate, ça va jouer sur les textures. Effectivement, on arrive à des compromis qui sont pas mal. Là où j'ai été très surpris, c'est que ça tourne vraiment bien sur un iPad de 2014.
Ah oui.
On est en 2018 quand même, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Alors ok, c'est en holo, mais encore plus fort, ça tourne sur mon Nexus 5 de 2013.
Ah oui.
Alors ok, vu la taille de l'écran, je suis content de jouer contre des bots, je vais y revenir. Mais mais très honnêtement, le résultat est, bah voilà, ça tourne. Donc ça veut dire que sur un moyenne gamme, un Honor ou un truc un peu lambda actuel, bon bah ça va tourner vraiment correctement. Ça c'est une très bonne nouvelle. Et après vous verrez qu'il y a plein de petites concessions au niveau du gameplay. Ils ont changé de business model aussi. Et le truc le plus intéressant dont je parle vite fait, mais qui a été confirmé depuis. Pas par Tencent, hein, mais qui a été confirmé par les expériences de jeu, c'est qu'effectivement, ils ont mis des bots au départ. C'est-à-dire que quand tu commences à jouer, tu joues pas contre des humains. Enfin, il y a quelques humains sur la map, mais pas beaucoup. Voire pas du tout, apparemment, sur la première game. C'est que des bots pour vous permettre de vous faire la main avec le jeu, avec l'interface, et pas vous faire massacrer en boucle dès que vous arrivez sur le sol, quoi.
Donc, question de nous, parce que je me l'ai supposé au moment où j'ai appris ça, en termes de gestion du réseau, du netcode, tout ça sur téléphone, ça se passe plutôt bien aujourd'hui. Enfin, on a les compétences techniques et tout pour qu'on puisse jouer à 100 sur une partie avec un téléphone.
En fait, ça change rien pour eux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où t'as un bon signal, sur ton téléphone, ton wifi déconne pas, etc., ça passe. T'as pas un ping, évidemment, de ouf, mais c'est pas nécessaire. C'est plutôt bien géré dans ce genre de titre. Il faut bien voir que même dans les MOBA, par exemple, les adaptations de MOBA comme Arena of Valor, comme Vainglory, ça a jamais été un gros souci à partir du moment où la connexion Wi-Fi part pas dans les choux. Donc c'est plutôt bien géré, ça pose pas de soucis. Après, on retrouve les mêmes problématiques. Le plus important, c'est d'être sur les bons serveurs. C'est-à-dire que t'amuses pas à aller jouer sur les serveurs asiatiques en étant en France. C'est des bases qu'on a aussi sur PC. Forcément, si les serveurs sont éloignés, ça va être la merde. Mais le fait d'être sur une machine sans fil en 2018 et depuis même 2-3 ans maintenant, c'est géré vraiment très correctement.
Donc c'est pas un choix de design, en fait, pour limiter le nombre de joueurs. C'est vraiment plus un accompagnement pour les gens qui commencent à jouer en se disant, mettre des mecs fantoches, quoi.
Ah oui, complètement, parce qu'en fait, une fois que tu passes le niveau, je sais plus comment c'est représenté dans le jeu, mais une fois que tu arrives dans le high rank, bim, t'es que avec des joueurs. Donc l'histoire des bots, c'est vraiment extrêmement temporaire pour se faire la main, tout bêtement. Et ça, c'est un truc qui, bah, c'est super malin, en fait. Genre qu'à la limite, pourquoi ne pas le reprendre sur la version desktop ?
Tout à fait.
Quitte à avoir une option à activer, etc. Je pense qu'il y a des gens qui sont très contents de jouer avec quelques humains ou avec vraiment un matchmaking un peu mieux foutu pour avoir une chance de survie et puis découvrir le jeu sans avoir la pression de se dire je vais me faire flinguer par un méga pro au coin de la rue, hein, Fasquille.
Ouais, non, mais sérieusement, je cracherais pas sur un mode. Je trouve que c'est très utile dans Dota, par exemple, pour apprendre à prendre des héros en main.
Bah ouais.
Quand t'es obligé de le faire sur le feu dans une partie avec des Russes qui t'engueulent, c'est pas toujours facile. Donc c'est pareil pour PUBG. Je connais pas assez la map parce que j'y ai pas assez joué. Mais du coup, ça me terrifie.
Surtout t'en as deux,
quoi,
maintenant.
Ouais, surtout t'en as deux. Et je me dis voilà, une petite séance avec des bots, même si je sais que ça, il y a 9 chances sur 10 que je finisse premier, c'est pas grave. Au moins, je peux explorer la map, je peux trouver des endroits sympas et puis connaître un peu, apprendre à la maîtriser en fait.
On va apprendre à sniper, apprendre des armes, donc c'est franchement c'est cool, c'est une très bonne idée. Ça me fait marrer de voir une bonne idée sur une adaptation mobile par rapport au jeu desktop, donc ça c'est assez rigolo. Vous verrez sur le papier que j'ai fait sur Geekzone, il y a des vidéos avec des comparaisons, des settings de graphiques sur les différentes versions qui permettent de voir à peu près la gueule que ça. Mais attention, vous risquez de regarder ça sur votre écran d'ordinateur
en plus, ouais.
Du coup vous allez trouver ça pixelisé, etc. Le rendu ne correspond vraiment pas à ce qu'on a dans la main. C'est meilleur même en base def. C'est un peu mieux que ce qu'on voit sur un écran d'ordi, forcément, puisque là, l'écran joue énormément.
Alors ça, c'est pour PUBG. On parlait de l'autre, c'est Fortnite.
Alors Fortnite, le gros concurrent qui vient de ramasser 126 millions de dollars, apparemment, au mois de février. On vend in-app, tu vois, donc ça c'est un petit jeu rentable déjà. Et a priori il serait passé, c'est un cabinet d'études qui dit ça, donc les mecs ont pas les vrais chiffres, je sais pas s'ils font ça au doigt mouillé voire avec deux doigts mouillés, mais bref, il serait passé devant PUBG en termes de vente, qui serait à le pauvre un tout petit peu plus au-dessus de 100 millions, un truc comme ça.
Donc
les deux jeux fonctionnent très très bien, mais évidemment notre ami Epic veut aussi sa part du gâteau mobile. Eux, ils ont choisi un truc très différent. Ils font pas une adaptation de leur jeu dans une version mobile, ils font un client mobile pour le jeu en général. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu te connectes avec ton compte normal, donc avec les items que tu as débloqués, etc., sur la version mobile. Et tu peux jouer potentiellement contre des mecs qui ont un clavier souris si tu veux te faire exploser la tête en boucle. Il n'y a pas de souci, c'est possible.
Et du coup, tu récupères tes infos de compte, peu importe la machine où tu joues aussi. En fait.
Exactement. De toute façon, tu es logué avec ton compte Epic, donc tu récupères directement les items que t'as achetés, débloqués, etc. Et tu peux continuer à farmer sur cette version mobile.
Nice.
Si t'es coincé chez mamie, c'est pas grave, tu peux continuer à jouer. L'avantage, c'est que effectivement, tu retrouves exactement le même jeu, tu retrouves donc tout ce qui fait que le jeu, tu le connais, tu l'aimes bien, mais il est pas très adapté à une version mobile tactile. Ouais. La gestion de la construction, la gestion des sauts, switcher d'armes rapidement, etc. Construire une forteresse autour de toi comme tu vas le faire sur desktop, c'est juste impossible sur mobile. Alors j'aurais envie de dire c'est impossible sur console, je vois des mecs le faire, donc je me doute qu'il y a des gars avec des heures de pratique qui vont réussir à faire des trucs de ouf. Mais bon, c'est pas génial. En plus, il a du mal à gérer les devices anciens. C'est-à-dire que la qualité graphique sur les trucs un peu vieux, c'est une cata. La version iPad, sur mon iPad de 2014, là où ça fonctionne très bien pour PUBG, c'est extrêmement moche, saccadé, voire pas jouable sur Fortnite. Quand je dis pas jouable, c'est que j'ai eu des freezes et des morts parce que je switchais d'arme en face d'un mec et que ça m'a freezé pendant 2 secondes l'écran, ce qui généralement veut dire tu vas décéder, ce qui n'a pas manqué d'arriver. Donc, c'est pas super adapté. Moi, personnellement, je pense qu'ils auraient mieux fait de faire une vraie version séparée, etc. Ça leur aurait rapporté autant de fric. Mais techniquement, il y a aussi le côté galerie, entre guillemets, qu'Epic cherche à mettre en avant. C'est à regarder notre jeu. On peut faire toutes les versions avec le moteur Unreal Engine. Je pense qu'il y a aussi un peu des deux. Le jeu, on est au départ. Hein, donc, il y aura des optimisations. Ça sera peut-être un peu mieux. Et puis, clairement, ils visent les gens qui sont sur des téléphones plus modernes, point barre. Leur problématique actuellement, c'est le développement de la version Android, qui s'annonce très compliqué parce qu'il y a énormément de différents devices à gérer et qu'il faut que le moteur fonctionne sur chacun. Pour l'instant, il n'est disponible que sur iOS et PUBG. Vu le marché chinois complètement dominé par les trucs Android, ils étaient obligés de commencer par ça, limite. Et la preuve, mon Nexus 5 arrive à le faire tourner, j'avoue que j'en reviens pas. Hein. J'ai des jeux de cartes qui ont plus de mal à tourner qu'un ce truc en 3D, ce qui est quand même assez balèze. Donc en tout cas, maintenant, la grosse question, c'est est-ce que ça a un intérêt de jouer sur un téléphone à l'écran tactile? Moi, ce qui me fait délirer, et pourquoi j'en parle, c'est parce que il y a le côté business avec les proportions que ça prend qui me fait vraiment délirer. Je trouve ça hyper intéressant à suivre. En termes de gameplay, on va pas se mentir, je trouve que en palliatif, si vraiment vous êtes accro et que vous avez absolument besoin d'essayer de sniper un mec dans la campagne sur votre téléphone en déplacement, ça vaut peut-être le coup. Mais sinon, je vois pas ce qui va vous retenir de brancher votre PC ou votre console, à moins si, vous êtes collé dans votre canapé, je sais pas, quand j'avais la jambe explosée, tu vois, j'y aurais joué, par exemple. mais sinon, parce que je pouvais pas mettre devant mon PC, mais sinon, je vois pas bien l'intérêt. Pour l'instant, les gens que je connais qui jouent sur Geekzone sont les gens qui ont leur carte graphique qui a cramé. Hein. J'ai des noms. mais sinon, se motiver pour se dire, je vais me faire une bonne petite partie sur mon téléphone. Ouais, je suis pas persuadé, quoi.
Ouais, pas des jeux adaptés au marché mobile, aux technologies mobiles.
Ils ont réussi à l'adapter, je dirais pas ça, mais est-ce que la nouvelle génération est plus gentille que moi? Je ne sais pas. On verra les chiffres dans 1 an ou 2 ans, mais pour moi, un Arena of Valor, les MOBA, par exemple, sont plus facilement adaptables et intéressants sur mobile que ce type de jeu.
Et on va rester avec PUBG un instant, puisqu'on va parler de la version desktop cette fois-ci, puisqu'ils vont lancer des events. Je sais pas si tu avais suivi.
Ouais, exactement, mais ça, c'est une gentille copie de nos amis de chez Fortnite. Pour une fois, tu vois, ils se copient les uns les autres, ça y est, c'est la guerre. Hein.
C'est ce que j'ai déjà d'auteur, avec des events temporels, limités dans le temps. C'est quoi, ces events? Ça va être donc des nouveaux modes de jeu qui vont être proposés sous forme de sessions limitées dans le temps, pendant une semaine, 2 semaines, je sais pas combien de temps ils vont le faire, avec des changements de règles ou des ajouts de nouveaux objets. Le premier event, il est en ce moment sur les serveurs test, il sera peut-être même déjà en live au moment où vous écouterez ce podcast, permet de doubler la taille des squads, donc on peut jouer à 8 au lieu de 4.
Par équipe, hein.
Ouais, par équipe, bien sûr, pas à 8 sur une map, sinon ça va.
Je précise pour les gens qui débarquent, qui sont là genre « What ?»
On n'a pas beaucoup d'infos encore sur les prochains events. Les développeurs, en tout cas, ont promis d'être créatifs. Ils parlent notamment d'un flare gun dans un prochain mode pour pouvoir appeler un airdrop, pour pouvoir donc commander des
de
bonus et des vraies armes. Donc ça peut être rigolo. Voilà, c'est pas un gros changement, mais je voulais en parler parce que je trouvais que c'était une chouette idée.
Non, mais c'est une chouette idée, mais j'insiste, hein, c'est un truc pour le coup qui existe depuis un peu plus longtemps sur Fortnite, qui fait des events avec 50 contre 50, etc. Et tout le monde a dit ouais, bon les gars de chez PUBG on se fait un peu chier en ce moment, il faut un peu pimenter tout ça, et ils ont été piqués en face, et vu que Fortnite a tout piqué à la base, je trouve que c'est une bonne guerre.
Voilà, pour savoir si vous pouvez y jouer, normalement dans le menu vous allez avoir un nouveau sous-menu qui va apparaître avec match, et vous pourrez choisir entre classique ou event, donc surveillez votre lobby PUBG dans les jours qui viennent, ça devrait arriver incessamment sous peu. Et puisque tu parlais de Fortnite, eux ils vont dans une autre direction, ils rajoutent un replay editor.
En fait ça existe, ouais c'est pareil, alors là tu vois bah, c'est une petite copie du mode replay de nos amis de chez PUBG, mais sauf que là ils vont plus loin avec la possibilité de monter directement toute la séquence pour l'exporter d'un coup. Alors c'est bien plus malin que ce que propose actuellement PUBG, mais voilà, c'est de la saine concurrence hein, entre les deux, donc attendez-vous à avoir le mois prochain un replay editor dans PUBG. Ça fait un quart d'heure qu'on parle des deux jeux, mais en même temps c'est les deux trucs les plus joués sur la planète actuellement, donc je m'excuse pour les gens qui sont allergiques, bon bah si vous n'aimez pas ça, on vous promet à la semaine prochaine on essaiera de parler d'autres choses côté game.
Et on va passer aux apps du coup avec des nouvelles One Password 7 sous Windows hein.
Oui, alors ça c'est la bonne nouvelle que j'ai pas vu arriver parce que je savais que s'ils y travaillaient, mais la version bêta donc de One Password 7 Windows vient d'arriver, et dans les bonnes nouvelles qu'on n'attendait plus, il y a la gestion des coffres-forts locaux, donc directement sur votre machine, ce qui avait disparu en fait de la version 6 et qui avait énervé beaucoup de monde.
Mais oui.
Et en plus, ça veut dire que bah du coup normalement, j'imagine que la synchronisation Dropbox va être de la partie. Pareil, ça avait été giclé de la vieille version, enfin de la version 6, qui est la version officielle actuelle. Et c'est un truc, si on voulait l'utiliser, il fallait rester à la version 4, qui est une catastrophe, hein, faut le dire. Du coup, bah voilà, maintenant ils ont fait une version qui s'annonce plus jolie, qui va répondre à plus d'usages, et l'évolution du produit sur les différentes plateformes est vraiment vraiment super bien géré. Moi, je suis hyper satisfait en tout cas du travail accompli. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le gros prochain développement, ça sera l'officialisation entre guillemets de One Password X, qui est la disparition du logiciel au profit d'une extension qui fait tout directement au sein du navigateur.
Et on va passer du côté d'Instagram qui a fait une annonce qui devrait te faire plaisir, puisqu'apparemment ils ont décidé de faire marche arrière et de revenir à une timeline vaguement chronologique. T'étais content?
Alors ouais, je suis hyper content, mais je suis tellement content que il va falloir que tu balances un magnéto.
On va me dire oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette parce que ça c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Un rant, donc, mais comment ça se fait? C'était pas ce que tu demandais, en fait, à la base?
Alors, moi, je dis Instagram, merci les mecs, mais c'est gentil de nous prendre pour des imbéciles. Parce que les mecs, c'est extraordinaire. Ils se fendent d'un communiqué de presse pour t'expliquer. Oui, on sait, notre algorithme, il fait un peu de la merde. Alors, on va vous mettre une option pour mettre les posts nouveaux au début. Note, ils ont pas dit dans l'ordre chronologique, c'est les nouveaux posts seront plus proches du début. Mmh. Donc, on va régler un problème tout de suite. Ce n'est pas le retour de la timeline chronologique. Ça leur prendrait que dalle. Hein. Ça serait une option. Ça les empêche. Je comprends pas pourquoi.
Ah oui, non,
pas.
C'est vraiment un choix, j'imagine, économique, mais.
Mais pourquoi? Ils peuvent mettre des pubs tous les trois posts comme actuellement. Ils en ont rien à foutre. Donc, je comprends pas pourquoi les mecs bloquent et veulent pas te mettre un putain de bouton qui va te permettre de voir ton truc dans l'ordre. C'est un service, tu vois. Tu utilises le truc. Alors, ok, c'est gratuit, merci les gens. On paye pas pour le service, mais encore heureux, parce que si on payait, je me serais barré depuis un moment. Mais là, les mecs, en fait, te mettent un truc qui résout un problème de leur algo, parce que tout bêtement, qu'est-ce qui se passe actuellement? Tu n'utilises pas l'appli pendant genre 6-7 jours, ce qui n'arrive jamais pour les gens qui sont accros à Instagram, qui le lancent 12 fois par jour. Et du coup, tu te retrouves avec des trucs nouveaux, enfin, en haut de ton feed, qui ont genre une semaine. Parce que genre, et puis ça te prévient pas, hein. C'est-à-dire que si tu regardes pas la date du post, tu sais pas que le truc est super périmé. Donc tu vois, ça a l'air sympa ce que mange mon pote au resto. Bah ouais, mais en fait, c'était la semaine dernière. Ok, super. Ça n'a aucun intérêt dans ces cas-là, et ils se sont dit, on va quand même proposer aux gens de choisir s'ils veulent voir en premier les posts récents. Bah oui, ça serait pas mal, hein. Merci beaucoup quand même. Mais une option chronologique, apparemment, c'est trop cher. Donc, ils veulent pas, et je continue de ne pas comprendre pourquoi ça m'agace énormément.
C'est rigolo parce que ça a l'air d'être un choix stratégique global chez Facebook. On a à peu près le même problème sur Facebook, justement.
On a exactement le même.
Bah, en fait, on a la possibilité d'accéder à un fil chronologique. Le seul truc, c'est qu'il est pas sélectionné par défaut et que régulièrement, il repop sur un most read, ou je sais pas comment ils appellent ça. Enfin, le truc.
Most read, c'est pas mal.
Most read. Bref, tu vois que j'ai aussi un accent anglais. Bref. Et donc, en fait, en clair, ils essaient de nous pousser à utiliser plutôt leur timeline à eux que la timeline chronologique que tout le monde préfère, finalement, j'ai l'impression.
Enfin, c'est, bah, c'est surtout qu'en plus, la façon dont fonctionnent les algos est complètement conne. Moi, sur Facebook, ça me fait repopper les mêmes trucs tout le temps, sous prétexte qu'il y a eu un nouveau message, par exemple. Or, j'ai déjà les notifications, donc si je veux voir ce qu'il y a, bah, je peux cliquer directement sur la notif, j'ai pas besoin qu'on me réaffiche le feed.
Tout à fait.
Donc, il y a des gens qui sont payés très cher et beaucoup plus intelligents que moi, qui ont décidé que c'était une bonne idée. Et moi, en tant qu'utilisateur débile lambda, je dis, mais vous êtes con, là. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun intérêt pour moi, ce que vous me proposez. Du coup, j'y reste à peu près une demi-seconde sur Facebook, parce que je scrolle trois fois, je vois les mêmes trucs que j'ai vus hier, et ça ne m'intéresse pas. Donc, et maintenant que le menu est en plus en version mobile pour aller remettre la version chronologique, bah, bon courage, parce que c'est dans un menu ultra planqué. Et ça va ressauter pareil, donc c'est complètement con. Bon, je ne comprends pas, si vous savez pourquoi économiquement les mecs veulent absolument fonctionner comme ça,
écoutez, on est curieux.
Voilà, le forum est ouvert, expliquez-moi, parce que vraiment je dois être trop bête, quoi.
Et on va finir les apps avec Linea Sketch sur iPad.
Oui, alors ça c'est un truc, ça me fait marrer de parler d'applications de dessin quand on connaît mon niveau en dessin, qui est à peu près genre les bonhommes avec les bâtons, hein, je sais pas faire autre chose.
Les sticky figures.
Hein. Les sticky, et encore, les miens sont moches, hein, alors que la tête, j'arrive pas à faire un rond correct, hein, donc c'est une horreur. Et du coup, ça, c'est une appli, je voulais en parler vite fait, parce que si vous aimez gribouiller sur iPad, c'est une version, c'est une nouvelle version d'un soft qui existait depuis un petit moment. Ça coûte 5 balles en promo, et c'est ultra puissant, mais vraiment. Donc, écoutez, maintenant, il y a des remboursements possibles, si jamais ça vous plaît pas. Vous pouvez toujours aller tenter votre chance. Mais si vous voulez gribouiller sur iPad avec un soft qui vous permet vraiment de vous sentir comme sur un soft desktop pro, mais dans le confort de votre canapé, Linea Sketch, ça fait vraiment bien le boulot. Il y a plein de reviews sur le net qui sont dithyrambiques. Les mecs sont beaucoup plus forts que moi pour savoir si c'est bien ou pas, hein, on va pas se mentir. Mais je trouvais le rapport qualité-prix assez imbattable. Il va passer à 10 balles. Je crois qu'il reste en promo pendant une semaine. D'accord. Donc ne ratez pas ça si vous êtes intéressé. cette news ne vous intéressait pas de toute façon.
Et on va passer à la suivante du coup.
Voir les gars.
On va parler culture avec le retour d'un animé Jap, c'est ça ?
Ah oui, alors lui il est totalement Jap.
C'est FLCL, je te demandais tout à l'heure aux antennes, ça voulait dire quoi ? Et tu m'as répondu un truc que j'ai pas compris.
C'est ça se prononce Folikuli.
D'accord.
Parce qu'en fait, c'est imprononçable et j'ai envie d'expliquer un truc très clair, c'est que si vous aimez les univers carrés où on vous prend par la main, on vous explique les choses, ne regardez surtout jamais FLCL. Vous l'avez peut-être déjà vu, vous l'avez peut-être déjà oublié, parce que c'est très vieux, hein, ça date de 2000-2001, un truc comme ça. Et la nouvelle, c'est qu'ils font une suite, en fait, ils font même pas une suite, ils font deux suites, et ça arrive le 2 juin 2018 pour la première qui s'appelle FLCL Progressive, et plus tard, à peu près à environ septembre 2018, mais on n'a pas la date exacte, pour FLCL Alternative. La nouvelle qui n'est pas très surprenante, c'est qu'au Japon, il y aura même deux sorties au Cinoche, une pour chaque saison, où ils ont l'habitude de faire des espèces de condensés, si tu veux, d'une série dans un film. Et ça sort au Cinoche.
Okay.
Donc ils font un montage, ils font un cut spécifique. Ça existe, c'est très régulier. Il y a plein de séries qui ont ce traitement-là au Japon. Ça sort rarement en dehors du Japon parce que les gens se demandent un peu ce que c'est.
Ça raconte quoi du coup ?
C'est pourquoi. Donc voilà, c'est assez rigolo. Et alors FLCL, pourquoi c'est un peu compliqué ? C'est le scénar. Comment t'expliquer ? T'imagines qu'il y a un gamin qui se fait renverser par un scooter dans la première saison, par une nana qui arrive, qui lui met un coup de guitare. Il a une bosse sur la tête et ça fait un portail dimensionnel.
D'accord. Et tu n'aimes pas David Lynch, mais je ne comprends pas en fait.
Parce que là, c'est très drôle tout le temps et c'est d'accord. Complètement barré. Tu te retrouves avec une histoire de complot cosmique alors que ça démarrait dans une espèce de décharge. Enfin, franchement, le truc est barré comme rarement j'ai vu des dessins animés.
La série impitchable.
Barré. C'est impitchable, mais vraiment, faut. Parce qu'en plus, le scénario. Voilà, vous allez lire le scénario sur Wikipédia, mais ça ne va pas faire ressortir l'ambiance complètement tarée du truc. Et moi, pourquoi j'en parle et pourquoi j'ai hâte de voir le résultat, c'est parce que les mecs qui sont en train de bosser sur la suite, c'est un peu les dream team du dessin animé japonais. On se retrouve avec Project IG, qui est une des sociétés qui fait les animés les plus beaux que je connaisse. Enfin, il y a des concurrents au Japon, mais c'est vraiment top. Il y a Toho, et je pense que l'argent nous vient du network Adult Swim, puisque ça va être diffusé sur un de leurs networks. Du coup, je suis extrêmement intrigué. Il y a une bande-annonce full jap qui est disponible. Je vous mets le lien dans le billet qui accompagne le podcast. Et voilà. Et en fait, j'ai pas envie d'en dire plus. Vous allez regarder. Et après, vous allez demander des marques d'herbe à fumer pour regarder en même temps. C'est très, très bizarre.
C'est transmédia.
C'est waouh. Ouais, c'est ça. C'est une expérience.
Deux petites news séries rapidement. Je voulais vous parler donc de la sortie de Barry, dont on vous a déjà parlé dans Torréfaction. Hein. C'est cette série sur HBO de Bill Hader, où il incarne un tueur à gages qui se prend tout à coup d'affection pour le métier d'acteur et qui décide donc sur son temps libre d'essayer de devenir acteur. Évidemment, ça va pas être facile. Les premiers retours sont très très bons. Apparemment, c'est un subtil mélange entre comédie et drama, donc c'est pas que un truc pour rigoler. C'est pas non plus que un truc ultra cringe, mais apparemment, ça joue bien sur les deux tableaux. Donc, ça sort dimanche sur HBO. Donc, demandez à vos tontons de vous envoyer vos cassettes VHS à partir de dimanche. Et la série, si je me souviens bien, c'est une dizaine d'épisodes, mais on aura l'occasion de peut-être faire une mini-critique bientôt, si on a l'occasion d'y jeter un coup d'œil. Et puis la deuxième petite news, c'était The Americans, pour vous signaler que cette excellente série du FX entame sa sixième et dernière saison mercredi prochain. Je rappelle que c'est une série qui est créée par Joe Eisenberg, qui est un ancien officier de la CIA, qui s'est reconverti en romancier, producteur, scénariste pour la télé. Il avait notamment bossé sur Damages, la série avec Glenn Close. L'histoire, en deux mots, c'est l'histoire d'un couple d'espions russe qui s'introduit donc aux États-Unis dans les années 80 et qui se fait passer pour un couple américain. Donc ils ont des enfants, enfants qui sont bien évidemment pas au courant, qui ne sont pas américains mais qui sont russes. Donc il y a toute cette problématique familiale qui est scénarisée, puis aussi bien sûr le fait que derrière ils doivent remplir leur mission et ça se passe pas toujours très bien. C'est vraiment une très très bonne série avec une écriture vraiment très très fine et très subtile. Je vous spoil rien, mais il y a des retournements dans la famille qui sont assez bien amenés, assez bien joués. Donc voilà, on est tous très impatients, enfin tous les fans sont impatients de ces sixième et dernière saison. C'est à partir de mercredi prochain sur FX, et c'était les deux news séries en vitesse. Et je voulais encore parler d'un truc, c'est pas vraiment une série pour le coup, c'est l'arrivée bientôt sur Netflix de l'intégrale des Monty Python.
Nice.
Alors quand je dis l'intégrale, c'est vraiment l'intégrale, donc a priori ils ont un deal complet, on va avoir tous les épisodes des séries Monty Python's Flying Circus, tous les films bien évidemment, et puis quelques raretés, comme par exemple j'ai vu passer la pièce d'Eric Idle qui s'appelait What About Dick, qui apparemment est très très bien, ou des sketchs assez rares comme cette improbable double émission spéciale de 45 minutes diffusée sur la télé allemande dans les années 70, je crois, qui s'appelait Monty Python Fliegender Circus. Voilà, vous m'excuserez pour l'accent allemand. A priori, d'après Deadline, ça va être dès le 15 avril au Royaume-Uni, Canada et ailleurs, et puis un peu plus tard dans l'année aux États-Unis. Et on parle aussi de l'intention de Netflix, mais là c'est moins clair, de produire du nouveau contenu avec les Monty Python. Mais là, pour le moment, on n'a pas plus d'infos, donc si jamais les Monty Python se reforment une fois de plus pour une nouvelle production, ça sera probablement sur Netflix. Et on va finir avec la tech et des news de nos failles des processeurs AMD.
Oui, on en a parlé la semaine dernière. C'est très grave, c'est pas grave, on savait pas trop sur quel pied danser. Depuis on s'est quand même bien calmé, c'est pas si grave. Donc la boîte qui a découvert les failles, évidemment, va vous dire que AMD downplay, comme on dit en anglais, il minimise la gravité de ces failles. Bon, la vérité, c'est qu'elles sont très très difficiles à mettre en œuvre, bien loin de la facilité, et déjà, c'est un bien gros mot, pour Spectre et Meltdown. Donc pas vraiment de comparaison possible, et en plus, donc des patchs BIOS vont arriver chez normalement tous les constructeurs de cartes mères concernés, qui vont permettre de corriger la plupart de ces problèmes. Je vous laisse lire en détail dans le biais du podcast la petite news qui va bien, qui va vous permettre de voir un petit peu ce que ça corrige et comment ça va s'installer. Si je vous lis tous les détails, vous allez faire ronron. ça va pas être super passionnant, j'avoue. Déjà, moi, là, je suis pas passionné, donc on va passer à la suite. Je voulais vous parler de plein de téléphones Android aussi, et puis après, j'ai regardé les specs et je me suis dit qu'en fait, non. Je voulais juste glisser un petit truc, c'est que il y a des rumeurs sur le prochain OnePlus 6. D'accord. Qui est habituellement un petit peu la référence des trucs chinois pas chers mais extrêmement puissants. Pour le pas cher, je crois qu'on va falloir se calmer, parce que a priori les rumeurs de prix on atteint quasiment les $800. Sachant que l'ancien était à 500. J'attends de voir ce qui va se passer, ce qu'ils vont mettre dedans, parce que sinon ils vont avoir un petit peu plus de mal à le vendre, je pense, mais on en parlera peut-être la semaine prochaine. We'll be right back.
Et c'est la fin de ce 43e épisode de Torréfaction. On se retrouve, si tout va bien, dès lundi prochain 9h pour un nouveau round-up de l'actu. D'ici là, bon week-end, Kev. Tu vas aller jouer à PUBG sur mobile ou sur desktop?
Ah, écoute, je crois que je vais faire une pause. Je vais lire ce week-end.
C'est vrai?
Ouais, je crois que je vais lire, ouais.
Tu vas lire quoi?
J'en sais rien, c'était pour voir si c'était crédible comme mensonge. Mais non, évidemment que je vais jouer avec une souris, un clavier. Vous m'avez pris pour qui ou quoi, là? Non.
Allez, bon week-end.
Bon week-end, ciao.
Ciao.
Un podcast signé Faskill. Faskill.com.
Les clairvoyants, c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie-crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur geekzone.fr, on vous y attend, amis True Believers.
Have care how you speak. Loki is beyond reason, but he is of Asgard, and he is my brother.
He killed 80 people in 2 days.
He's adopted?